www.radioscoop.fr.
L'émission que vous allez écouter est la dernière à laquelle a participé Claude Liazou. Claude Liazou est en effet décédé cette semaine, juste après l'enregistrement de ce numéro d'idée. Claude Liazou vivait une partie de l'année à La Réunion. Touché par l'épidémie de chikungunya, il luttait courageusement contre la maladie depuis des mois, mais son état général ne lui a pas permis de la vaincre. Claude Liazou, qui avait tenu à nous accorder cet entretien malgré la maladie qui le faisait atrocement souffrir, était un historien intelligent et chaleureux, un enfant de la colonisation qui croyait que la mémoire de cette dernière pouvait, quand on ne l'instrumentalisait pas au profit d'une cause ou d'une autre, grandir notre mémoire et, ce faisant, rapprocher les hommes. Il avait sans doute encore beaucoup à dire sur le sujet, comme le prouve cet ultime entretien.
Une émission proposée par Benoît Ruel. Première partie.
Bonjour ou bonsoir. On croyait bien en avoir fini avec la colonisation et au contraire, elle n'a jamais été si présente depuis la fin de l'aventure coloniale française il y a plus de 40 ans. Vote de la loi de 2001 condamnant l'esclavage comme crime contre l'humanité, journée de commémoration du 10 mai, controverse autour du rôle positif de la présence française outre-mer, polémique autour de la définition de la colonisation dans le dictionnaire Le Petit Robert, souvenir soudain de la révolte des Malgaches en mars 1947, ouverture du musée consacré aux arts premiers à Paris et succès du film indigène primé à Cannes, bref, le passé colonial est bien notre actualité, la plus chaude de notre actualité, même si on veut bien se souvenir que ce passé s'est immiscé jusque dans le débat actuel sur l'identité française qui a agité la campagne présidentielle. Né à Casablanca en 1940, lui-même enfant de la colonisation, grand spécialiste de cette histoire et professeur émérite à l'université Paris 7 Denis Diderot, Claude Liazou nous aide à y voir plus clair en publiant chez Larousse un dictionnaire de la colonisation française. 700 notices, 220 biographies, des dossiers, des cartes, des index, tout cela rédigé par 70 auteurs français et étrangers, et finalement un livre de plus de 600 pages et qui établit avec rigueur les fait qui expose la pluralité des interprétations, qui propose des repères permettant au lecteur de former son opinion tout en présentant une vue d'ensemble. Autrement dit, s'il s'agit d'un dictionnaire, et il n'est jamais très facile de parler d'un dictionnaire, il s'agit aussi, et peut-être même avant tout, d'un véritable livre d'histoire. Claude Liazou, bonsoir.
Bonsoir.
On a souvent l'impression que la question coloniale en France se limite à un problème de repentance. Repentance exigée par une partie de la population et rejetée par ceux qui ne veulent entendre qu'un éloge de la colonisation. Vous, vous dites que c'est considérer l'histoire par le petit bout. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais je n'ai pas trouvé d'entrée au mot repentance dans ce dictionnaire. Alors, à quelle hauteur faut-il se mettre, Claude Liazou ? Quelles lunettes faut-il chausser pour considérer à sa juste réalité l'histoire de cette colonisation ?
Question difficile. Ce que nous avons voulu, c'est essayer de répondre à des besoins de la société, mais non pas de répéter la chanson de ceux qui exigent une repentance, ou bien de ceux qui considèrent que la colonisation a eu un rôle positif, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, à propos de la loi de 2005. Nous refusons d'entrer dans ce jeu-là. C'est difficile, parce que bien sûr, beaucoup de lecteurs risqueront de ne pas trouver ce qu'ils attendent. Nous refusons aussi que les hommes politiques fassent notre travail. C'est important de le dire, il y a trop de lois qui sont amenées maintenant à trancher des programmes, des recherches, etc. Je pense qu'il est raisonnable de revenir à un statut simple. Les historiens ont une fonction scientifique, établir les faits, vous l'avez dit, avec le plus de rigueur possible, sans prétendre avoir raison, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont ouverts, sans prétendre qu'il y ait une vérité. Nous savons bien que l'histoire n'est pas une science objective, parfaitement neutre, donc il y a des points de vue différents, et nous avons tenu à ce que cette diversité des points de vue apparaisse dans le dictionnaire.
précisément à propos de cette question qui a été à l'origine, on vient d'en parler, vous venez d'en parler, d'une grave polémique. La colonisation a-t-elle été positive ou négative ? Sur ce point précis, quelle réponse ce dictionnaire fait-il au lecteur ?
Nous essayons de fournir la réponse suivante. Ho Chi Minh est un produit de la colonisation française. Ho Chi Minh a vécu en France, il s'appelait Nguyen Ai Quoc, Nguyen le patriote, il a adhéré au Parti communiste, et cela a été une étape vers la création du Parti communiste vietnamien. Léopold Sédar Senghor a fait des études de grammaire à Paris, et il a vécu la fin de sa vie en Normandie. Je veux dire par là que la colonisation ne se réduit pas à une liste de crimes ou à une liste d'hôpitaux. C'est stupide de poser le problème comme ça. La colonisation a profondément transformé toutes les sociétés, la nôtre, les sociétés qui ont été colonisées, et puisque je suis RFI, moi je tiens à dire qu'il est plus possible de s'enfermer dans une histoire de la colonisation qui serait franco-française. Par les auteurs que nous avons choisis, par les thèmes que nous avons abordés, c'est une histoire de la colonisation dans tous ses aspects, et donc aussi du côté des sociétés colonisées.
Alors, vous mettez en garde contre la tentation de l'anachronisme qui consiste à juger hier avec les critères d'aujourd'hui, et particulièrement quand il s'agit de faire un bilan de la colonisation. Alors, donnez-nous quelques exemples. Prenez des faits qui, selon vous, ne sont pas interprétés à leur juste mesure parce que, précisément, on les juge avec les critères d'aujourd'hui.
Oui, moi je crois par exemple que critiquer les supplices que la colonisation pratiquait n'a de sens que si on les compare à la pratique des supplices à la même époque dans le reste du monde. Critiquer l'esclavage occidental, cela ne doit pas empêcher de montrer que l'esclavage a été une réalité aussi du côté des sociétés musulmanes, qu'elle le reste, que l'esclavage reste une réalité, et que l'esclavage a été aussi un instrument d'enrichissement des Africains. Il y a des personnages curieux, très intéressante dans notre livre que nous avons voulu signaler, ce sont ces femmes qui ont été les intermédiaires des négociants de bois d'ébène, d'esclaves dans la région de Dakar, et ces femmes qui ont fait fortune là-dessus et qui ont eu un moment très important de gloire dans l'histoire de leur société, qui ont été des notables jusqu'au moment où l'abolition de l'esclavage a mis fin à leur puissance.
Alors, c'est tout à fait intéressant, cette question des supplices subis par les esclaves, notamment, dont vous venez de parler, parce qu'il se rapporte directement à la question que je viens de vous poser. Car doit-on répondre à la question « la colonisation a-t-elle été positive ou négative ?» Est-ce qu'on doit répondre moralement, politiquement, philosophiquement ? Parce que, selon le registre adopté, la question de l'anachronisme se déplace.
Vous avez raison, et il faut dire que nous, historiens, nous devons avant tout fournir des réponses historiques, c'est-à-dire replacer les faits dans leur temps, non pas pour les excuser, mais pour essayer de les comprendre. Maintenant, nous avons aussi une conscience civique, nous avons aussi une conscience, et bien entendu, il y a des choses scandaleuses, épouvantables, qui se sont produites à travers la colonisation. Il ne s'agit pas de le dénier, d'ailleurs. Je pense que, bien que nous ayons été ouverts à tous les courants, il reste que, pour beaucoup, ce livre va déplaire dans la mesure où il n'apparaît pas comme suffisamment élogieux envers la colonisation française. Ils n'auront pas voulu le faire.
Pourquoi la colonisation, Claude Liozu ? Parce que l'homme a une tendance quasi naturelle, si j'osais, je dirais, innée, à l'expansion de sa puissance, ou pour des raisons avant tout économiques ?
Bien sûr, parce qu'il y a cette volonté d'expansion, et la colonisation existait bien avant l'époque contemporaine. Toutes les sociétés ont été des coloniales. L'Empire romain, c'est quand même une gigantesque conquête. Ce qui est particulier, certainement, à l'époque contemporaine, donc au 19e, 20e siècle, c'est l'importance du capitalisme dans tout cela. Ça, c'est important de le dire. Et une page de l'histoire du capitalisme a été liée à cette expansion coloniale.
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on a insuffisamment analysé les liens entre le phénomène colonial et le phénomène national ? En quoi, si on se livre à cette analyse, la perception qu'on a de la colonisation peut-elle changer ?
C'est important de le comprendre et de voir à quel point la colonisation était présente dans les manuels scolaires. En gros, un cinquième des manuels scolaires de l'époque des années 1950 était consacré à la colonisation. Et donc les enfants, d'ailleurs, pour leur malheur souvent, les enfants qui ont ensuite servi en Algérie pendant cette guerre épouvantable qui a duré 7 ans, était imbibé, était nourri de la culture patriotique de l'école primaire. Souvent, il s'agissait de paysans et d'ouvriers qui avaient eu cette formation d'école primaire ou de début de collège, et c'était leur culture. Il faut souligner que la colonisation a été un des instruments, on a parlé de la plus grande France, un des instruments d'identité nationale. Il est inconcevable qu'un phénomène qui a duré 5 siècles, malheureusement nous avons dû, nous, pour des raisons économiques, commencer le livre seulement en 1794 avec l'abolition de l'esclavage, la première, mais la colonisation a duré 5 siècles depuis le XVIe siècle, il est inconcevable qu'elle n'ait pas eu d'effet sur les identités nationales, sur les cultures. C'est évident et cela doit être rappelé parce que aujourd'hui on continue à le payer faute de l'analyser de manière satisfaisante. Vous avez fait allusion au problème identité nationale et colonisation. On est en plein dedans, il faut quand même dire que nous sommes un pays où un candidat à la présidentielle propose la création d'un ministère de l'identité nationale et de l'immigration, mais ce pays n'a accordé aucune place à l'immigration et à la colonisation, aucune place sérieuse à la colonisation dans les programmes scolaires.
Alors, nous allons revenir sur cette question dans quelques instants, notamment dans la seconde partie de cette émission, mais je voudrais encore vous interroger, Claude Lauzu, sur la relation entre la colonisation, l'économie, qui est, pour tout dire, le capitalisme, et le fait national. Parce que, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant pour comprendre mieux la colonisation ? Est-ce qu'il faut mettre en avant le capitalisme ? Mais le capitalisme, il ne date pas du 19e siècle, vous l'avez dit. Est-ce qu'il ne faut pas voir plutôt la colonisation sous le jour national? La colonisation, c'est aussi l'expression de la nation, du fait national en construction.
Absolument. Mais ce n'est pas contradictoire, parce que le 16e siècle a été, au moins pour certains ports, pour Bordeaux, pour Nantes, pour Le Havre, a été en particulier un élément très important d'enrichissement. Au point que Marx a parlé de la période d'accumulation primitive pendant laquelle l'Espagne et l'Europe occidentale ont accumulé des capitaux immenses qui ont préparé l'expansion du 19e siècle. Mais je pense que le découpage entre l'économique et le politique n'est pas satisfaisant. On l'a trop souvent fait, les historiens l'ont fait trop souvent, et je pense que avec le développement de l'identité nationale, avec le développement de la citoyenneté, donc avec la Révolution française, ça pose un problème redoutable des rapports entre République et colonisation. Il est certain que l'identité de la nation française a été liée à des éléments forts comme le patriotisme, mais aussi la colonisation.
Claude Lauzu, si l'Afrique et l'Asie ont été colonisées, est-ce parce qu'elles étaient attardées et par conséquent colonisables ? Autrement dit, faut-il chercher dans ces sociétés les germes de leur soumission ?
On peut le faire, ça a été fait bien sûr, c'est une explication qui est commode, ça ne suffit pas parce que le décalage entre les puissances européennes, impérialistes, colonisatrices, et les pays qu'elles vont dominer, ce décalage est pendant longtemps extrêmement réduit, il est beaucoup moins important que ce qu'on croit. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des blocages profonds, dans les sociétés asiatiques en particulier, que ces blocages auraient été impensables à faire sauter sans le fait colonial. Je prends quelqu'un comme Marx, qu'on ne peut pas accuser de sympathie envers la bourgeoisie anglaise, envers le capitalisme, mais qui disait « l'Angleterre a une mission historique à jouer en Inde », elle est d'abord que les Indiens arrêtent d'adorer des vaches. Parce que l'homme Marx ne peut pas accepter qu'on adore des dieux, des animaux comme des dieux. Et plus profondément, il disait que cette communauté, cette vie communautaire de l'Inde, mais aussi, c'est vrai aussi d'autres régions, cette vie communautaire de l'Inde pouvait être un facteur de blocage historique. Ce qui explique que tous les grands hommes, il n'y a pas une seule exception, du 19e siècle, n'ont pas adhéré au colonialisme, mais l'ont considéré comme inévitable.
Que répondez-vous à ceux qui soulignent, et ça va un peu dans le sens de ma question précédente, de ceux qui soulignent que la colonisation a été la seule voie d'accès à la modernité ?
Non. Le Japon est un exemple contraire. Madagascar avait amorcé une politique de modernité et avait joué justement des rivalités entre la France et la Grande-Bretagne. Alors les souverains malgaches s'étaient convertis au protestantisme pour trouver appui du côté britannique contre les Français. Non, une partie du monde n'a pas été colonisée. La Chine était un trop gros morceau à avaler. Donc je crois qu'il y a des exceptions qui le montrent, et il serait faux de dire que la colonisation a été la voie obligée. Le plus souvent, c'est la voie qui s'est imposée, mais aucune société n'a son destin prédéterminé, et il y a des exemples de sociétés qui étaient en plein travail. La Tunisie, par exemple, du 19e siècle, l'Égypte était en plein travail de modernisation, qui était beaucoup plus long, beaucoup plus difficile qu'en Occident, mais que la colonisation a coupé, que la colonisation a hypothéqué. C'est classique, Jaurès, par exemple, dénonçait la colonisation française au Maroc en disant, voilà un pays qui est en train de se moderniser, et la colonisation va bloquer tous ces facteurs de progrès.
Pierre Nora ne consacre qu'un chapitre à la colonisation dans ses désormais célèbres lieux de mémoire, comme si les vestiges de l'Empire étaient peu nombreux. Juste mesure, erreur, signe que le regard a changé?
Signe que le regard a changé. Pierre Nora est un très grand historien. Son livre est un chef-d'œuvre. Mais un seul chapitre, bien sûr, le regard a changé. Et c'est tant mieux parce que ce qui n'a pas été vu à l'époque de Pierre Nora est devenu aujourd'hui quelque chose qui pose des problèmes de première urgence.
Claude Lauzu, aujourd'hui aux États-Unis, mais plus généralement dans les pays anglo-saxons, le terme postcolonial est à la mode, avec les post-modern studies très en vogue dans l'extrême gauche universitaire. En France, ces études commencent seulement à émerger. Signe d'apaisement ou nouvelle guerre des mémoires?
Non, j'ai beaucoup d'admiration pour les post-colonial studies américaines. J'avais, et j'ai toujours, une grande admiration pour Edward Said, qui a été un de ceux qui les ont lancés, avec son livre L'Orientalisme. J'ai beaucoup d'admiration pour les subaltern studies indiennes. Je n'ai pas d'admiration pour les post-colonial studies françaises. Parce que ce n'est rien d'autre qu'un remâché de courants qui, aux États-Unis, ont été très riches, mais qui sont très équivoques, qui peuvent déboucher sur une critique, disons, du provincialisme de l'universel. Le nôtre, Jacques Berg, avait une très belle formule, l'universalisme à la française, c'est un provincialisme de l'universel. C'est une très belle formule, mais ça peut être une critique de cela pour aller plus loin, pour aller vers un universalisme ouvert à la pluralité, par exemple, ce que nous n'avons pas compris. Mais les post-colonial studies peuvent être aussi un enfermement dans l'afrocentrisme, dans la lutte juif-arabe, juif-africain, etc., ou afro-américain. Je crois qu'il y a beaucoup de risques. Et en France, ce qu'on voit, c'est l'ombre portée de ce qui a été un moment important de la critique de la colonisation, mais qui aujourd'hui est en régression aux États-Unis.
Alors, vous aimez, en tous les cas, vous estimez les études postcoloniales de langue anglaise ou américaine, enfin, ou en Amérique, mais n'ont-elles pas désamorcé, dépolitisé les questions coloniales historiques en les traduisant en questions uniquement culturelles?
Absolument, absolument. Vous levez un problème très important. Ces postcolonial studies qui, à l'origine, étaient très politiques. Pour Saïd, c'était très politique. Pour les Indiens, c'était très politique. C'est devenu un phénomène d'histoire culturelle, de déconstruction. Alors, c'est flatteur pour nous que Derrida, que Foucault et d'autres soient parmi les maîtres à penser de tout cela, mais il y a un phénomène de dépolitisation ou bien de fonctionnement en vase clos. Et moi, je poserai une question qui m'a beaucoup préoccupé pendant la Deuxième Guerre du Golfe. Comment est-il concevable que les universitaires américains spécialiste du monde arabe, spécialiste du tiers-monde, et était aussi impuissant en face de ce déferlement de ce qu'on a vu se produire aux États-Unis. Ça me rappelle les pires moments de la guerre d'Algérie. Il y a donc des carences, parce que quand un groupe d'intellectuels ne parvient pas à influencer sa société, il y a des carences, et nous avons voulu réagir. C'est une menace réelle.
Eh bien, Claude Lauzu, vous restez bien sûr avec nous. Et puis, sitôt après le journal, autrement dit, dans une dizaine de minutes, vous allez continuer à nous aider à y voir un peu plus clair, non seulement dans l'histoire de notre colonisation, mais dans la mémoire pour le moins troublée que nous en gardons. Je rappelle que vous venez de diriger, pour le compte des éditions Larousse, la publication du Dictionnaire de la colonisation française, un ouvrage rédigé par une équipe de quelques 70 auteurs. Alors, vous souhaitez nous écrire, notez l'adresse de l'émission, idée@rfi.fr. Ce numéro d'idée est mis en onde par Roland Kemener et réalisé par Marie-Noëlle Gindreau. A tout de suite après le journal.